Ce soir, nous accueillons M. Christian Stoffaes, ingénieur en chef des mines au ministère de l'Industrie. Il a successivement exercé des fonctions dans le secteur des mines, des affaires internationales, des études économiques, des industries électroniques et informatiques comme conseiller économique du ministre. Il est à Électricité de France depuis 1988 en tant que directeur à la présidence et à la direction générale. Il a donc un rôle actif dans l'administration et un rôle pratique, mais c'est aussi un théoricien, puisqu'il est professeur associé à l'Université de Paris 9 Dauphine, et il a consacré ses travaux d'économie aux questions d'économie industrielle, de politique industrielle et de régulation. Vous pouvez retrouver ses propos dans ses nombreux ouvrages. Je vous cite les quatre derniers. Donc, entre monopole et concurrence, la régulation de l'énergie en perspective historique, paru en 1994. Le second s'intitule « L'Europe à l'épreuve de l'intérêt général », paru aussi en 1994. Le troisième « L'Europe, avenir du ferroviaire », paru en 1995. Et enfin « Pour une Europe de l'utilité publique », paru en 1995. Je lui laisse donc la parole pour faire une conférence sur la déréglementation. Je vous remercie.
Bien, merci de votre présence. Alors, cette conférence s'inscrit dans le module consacré au rôle de l'État, à l'évolution du rôle de l'État dans l'économie contemporaine. Alors, je vous propose de commencer par une explication de texte, parce que les mots créent le sens et sont porteurs de concepts, et la déréglementation pose un problème sémantique. Alors, ce n'est pas à proprement parler un néologisme, parce que déréglementation, ça dit bien ce que ça veut dire supprimer des règlements, c'est-à-dire introduire la liberté là où il y avait des contraintes et des interdictions. Par exemple, quand on parle de déréglementer l'usage de la drogue ou de déréglementer la limitation de vitesse sur les routes, ça dit bien ce que ça veut dire. C'est un mot qui est apparu récemment dans le vocabulaire de notre politique économique, un peu comme celui de privatisation. Le mot privatisation n'existait pas il y a encore 15 ans dans le vocabulaire, il est apparu en 85, il n'existait pas, il était quasiment d'ailleurs imprononçable, et puis c'est aujourd'hui devenu une pratique courante de politique économique et relativement d'ailleurs populaire puisqu'elle est devenue transpartisane. Alors déréglementation, c'est un peu la même chose, c'est un mot qui n'existait pas dans le vocabulaire de politique économique, qui est apparu et qui guide aujourd'hui toute une série de politiques économiques en France et dans le monde. Alors, si le mot déréglementation a pris un sens particulier aujourd'hui, ce n'est pas tellement à cause de son sens traditionnel de supprimer des règlements. C'est un énologisme de politique économique parce que c'est une nouvelle politique économique qui s'applique à des secteurs particuliers de l'économie, qui sont les secteurs d'infrastructures, les secteurs de services publics, caractérisation d'ailleurs sur laquelle il va falloir approfondir un peu. Alors, c'est également une traduction imparfaite d'un concept américain qui s'appelle la deregulation, alors qu'on traduit parfois de manière franglaise par dérégulation, donc qui n'existe pas encore dans le dictionnaire. Alors déréglementation, en fait, dans l'acception que ça a aujourd'hui, et ce qui motive d'ailleurs le fait que les organisateurs de l'Université de tous les savoirs aient voulu organiser une conférence autour de ce thème, c'est précisément parce que c'est une traduction de ce concept américain qui est lui-même un concept relativement neuf. Alors la déréglementation dans ce sens, ça s'adresse à une zone particulière de l'économie, c'est-à-dire les secteurs et les branches qui font l'objet d'un encadrement économique contraignant de la part de l'État, encadrement qui limite étroitement, voire qui prohibe entièrement les libertés économiques. Nous vivons dans un régime d'économie de marché. Le principe, c'est la liberté d'entreprise, la liberté d'établissement, la liberté de commercer, la liberté de fixer les prix dans un régime de compétition. Les industries réglementées, ce sont des industries précisément où ce régime n'existe pas ou tout au moins est sévèrement contraint. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de s'y installer, on n'a pas le droit de développer une entreprise, il n'y a pas de liberté d'établissement, on n'a pas le droit de commercer librement, en particulier quand il y a des tarifs. Les tarifs, ça veut dire qu'ils sont fixés par la puissance publique et qui ne sont pas négociés librement sur les marchés. Donc c'est ça, cette notion de déréglementation, dans le sens qui nous réunit aujourd'hui, c'est un concept qui s'applique à des industries réglementées. Alors en France, c'est ce qu'on appelle les services publics industriels et commerciaux, c'est-à-dire les secteurs des transports, de l'énergie, des communications, des services collectifs locaux. C'est ça, ça recouvre à peu près ce concept d'industrie réglementée. Ce sont des secteurs industriels où la liberté économique n'existe pas, soit parce qu'il y a des régimes de monopole. Bon, on n'a pas le droit de s'installer comme transporteur ferroviaire ou producteur d'électricité en France. Il y avait jusqu'à récemment des monopoles. Il y a encore aujourd'hui, même s'il y a eu une certaine libéralisation des licences, donc il faut des autorisations pour exercer le métier, et on n'a pas le droit de commercer librement parce qu'il y a des tarifs. Donc c'est ça des industries réglementées, c'est aussi des services publics industriels et commerciaux. Alors aux États-Unis, j'alternerai un peu ma présentation entre ce qui se passe en Amérique et ce qui se passe chez nous, parce que c'est un phénomène mondial, la déréglementation, et c'est intéressant de comparer. Je crois d'ailleurs qu'on ne peut véritablement comprendre le sens de ce sujet si on ne fait pas en permanence des comparaisons internationales. Les États-Unis, c'est un pays où règne la liberté d'entreprise, c'est l'exemple le plus achevé du libéralisme économique. La France est un peu à l'autre extrême, c'est un pays où l'économie est développée, fonctionne bien, mais où elle est beaucoup plus étatisée, où l'État joue un rôle plus important. Donc c'est un peu les deux modèles extrêmes dans le monde d'aujourd'hui, c'est le modèle américain, le modèle français. C'est intéressant de faire un aller-retour permanent entre les deux pays pour bien comprendre le sujet qui nous occupe. Alors aux États-Unis, ces secteurs qui font l'objet de la régulation, c'est ce qu'on appelle des industries régulées, et c'est une définition d'ailleurs qui recouvre à peu près les mêmes secteurs que ce qu'on appelle en France les services publics, industriels et commerciaux. C'est intéressant de voir qu'à partir d'approches culturelles, d'approches juridiques très, très différentes, l'approche américaine qui part de l'économie de marché, l'approche française qui part de l'État, on arrive finalement à peu près à la même définition. Alors simplement, les mots sont très différents d'un côté et de l'autre de l'Atlantique, services publics, industriels et commerciaux chez nous, et industrie régulière de l'autre côté. Alors à ces caractérisations juridiques correspond une caractérisation économique. Ces secteurs réglementés, c'est ce que les économistes appellent des monopoles naturels, c'est-à-dire des secteurs qui engendrent, là encore pour employer la terminologie économique, des rendements croissants importants. Alors ça veut dire quoi des rendements croissants ? Ça veut dire que le coût de production de l'unité marginale produite, excusez-moi pour ceux qui ne sont pas économistes, ils ont employé des termes un petit peu complexes, décroît avec le volume de production. Autrement dit, produire davantage à partir d'un certain niveau ne coûte quasiment rien, mais évidemment engendre des recettes importantes puisque vous vendez les unités au même prix. Et ce phénomène engendre un effet de monopole. Pourquoi ? Parce que ceux qui sont plus gros avalent ceux qui sont plus petits. Donc c'est ce qu'on appelle l'effet d'envergure ou l'économie d'échelle. Les grandes entreprises sont beaucoup plus compétitives en termes de prix, peuvent baisser les prix et réduire à la faillite et absorber les concurrents plus petits, et ça engendre des monopoles. Voilà à peu près la définition. Or, un monopole privé a tendance à abuser de sa position dominante, c'est-à-dire à surtarifer ses services, à sous-investir, à pratiquer des politiques malthusiennes en matière d'investissement, en matière d'innovation technologique. Et c'est précisément cette caractéristique, l'abus de position dominante du monopole privé, qui conduit à le réguler. Donc la réglementation, l'industrie réglementée, c'est un peu un syllogisme. Le rendement croissant engendre le monopole, et le monopole suscite la régulation. Alors là aussi, en reprenant les exemples contrastés des États-Unis et de la France, c'est intéressant de voir le résultat. Aux États-Unis, qui sont un pays où l'État n'a pas de rôle en matière économique, les industries régulées sont apparues parce qu'il y a eu des monopoles, il y a eu des positions dominantes, ce qu'on appelle des trusts, et il a fallu l'intervention de l'autorité publique pour les contrôler. Alors, c'est une doctrine juridique qui s'appelle la public utility, qui a été élaboré par des jurisprudences complexes des tribunaux et de la Cour suprême tout au long du XIXe siècle, notamment à la fin du XIXe siècle, où sont apparues des puissances de monopoles importants dans les secteurs concernés, les chemins de fer, le transport de pétrole, le transport d'énergie. Quand il y a un bien essentiel et qu'il y a d'autre part un effet de monopole, donc ce que les juristes appellent la combinaison de la nécessité et du monopole, il y a intérêt public à les placer sous le contrôle de la puissance publique, des autorités publiques. Alors je ne dis pas de l'État, parce qu'aux États-Unis, le contrôle est fait plutôt par les tribunaux. Et les tribunaux, évidemment, étant encombrés par des sujets complexes, ont créé des chambres spécialisées, qu'on appelle les autorités indépendantes de régulation, pour contrôler les abus de position dominante dans les secteurs concernés. C'est pour ça qu'aux États-Unis, vous avez une autorité pour les télécommunications, une autorité pour les transports, une autorité pour l'énergie électrique. Et dans une dizaine de secteurs, vous avez des commissions indépendantes de régulation qui sont en fait des émanations juridiques des tribunaux qui contrôlent l'activité des entreprises dans les secteurs concernés. Ce sont des secteurs où la concurrence a besoin d'être surveillée. Alors, un instrument important de la régulation aux États-Unis, c'est le démantèlement. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des abus de position dominante et des monopoles, on les casse en morceaux. On les démantèle. Alors en France, nous avons une approche finalement très différente en apparence, mais qui au fond n'est pas si différente. C'est les monopoles d'État. Lorsqu'il y a des concentrations de pouvoir économique, eh bien on les nationalise et on les place sous le contrôle d'entreprises nationalisées. Alors c'est d'ailleurs inscrit en France dans le préambule constitutionnel de 1946. Toute activité présentant le caractère d'un monopole national doit être placée sous le contrôle de l'État. Finalement, ça dit à peu près la même chose. C'est un paradoxe, d'une certaine manière, de considérer que le monopole d'État en France, le service public national, est quelque part la voix française de la politique antitrust et de la politique de concurrence. Alors, le cas d'école, bien sûr, de ces secteurs de rendement croissant et de monopole naturel, ce sont les industries de réseau. Pourquoi ? Parce que les réseaux d'infrastructures engendrent des rendements croissants. Une fois que l'infrastructure est construite, souvent à grand frais, puisque ce sont des industries très intensives en capital, des réseaux routiers, des réseaux de chemin de fer, des réseaux de télécommunications, des réseaux de transport d'énergie électrique. Eh bien, une fois que le réseau est construit, ça ne coûte pas cher de transporter une unité supplémentaire sur le réseau. Donc on est typiquement dans un cas de rendement croissant. Alors c'était les routes. Les routes sont des services publics depuis l'Antiquité. La puissance de l'Empire romain s'est assise sur les voies romaines. Nous avons les postes, qui, elles, datent du Moyen-Âge. Le monopole postal a été instauré en France et dans le Saint-Empire au Moyen-Âge, vers le XIIe, XIIIe siècle, XIVe siècle. Au XIXe siècle, nous avons eu le télégraphe, nous avons eu les chemins de fer, nous avons eu les réseaux urbains, le gaz de ville, l'eau, l'assainissement. Et puis au XXe siècle, nous avons eu une prolifération, bien entendu, de réseaux, à mesure que le progrès industriel et les nouvelles technologies développaient de nouveaux services et de nouvelles infrastructures. Nous avons eu le transport d'énergie, les réseaux de gaz naturel, les réseaux électriques, les transports aériens, les téléphones, les télécommunications. Ce ne sont pas seulement des concepts hérités du Moyen-Âge ou du XIXe siècle ou du XXe siècle, ce sont aussi des concepts pour le XXIe siècle. Je rappellerai, pour fixer des éléments d'actualité, que l'année 2000 s'est ouverte sur l'explosion de ce qu'on appelle la nouvelle économie, avec des fusions, concentrations spectaculaires dans les secteurs de l'accès à l'Internet, du téléphone mobile, de l'informatique. Les premières capitalisations boursières aujourd'hui, ce sont ces valeurs-là, qui sont pourtant des entreprises de petite taille, mais il y a une anticipation de croissance. Bon, il y a une spéculation boursière sur l'effet de monopole. On paye jusqu'à 10 000 $ l'abonné au téléphone mobile alors qu'il n'y a même pas de fidélisation. On paye jusqu'à 10 000 $ l'abonné à Internet. Dans les fusions récentes d'AOL, de Vodafone, on a vu des chiffres de ce niveau. On est typiquement dans un phénomène d'acquisition de positions de monopole naturel, de course à la taille, de course à l'effet d'envergure sur le réseau Internet et les nouveaux réseaux de communication, notamment le téléphone mobile. Et puis nous avons également des phénomènes de trust et d'antitrust. Bon, nous sommes également en pleine actualité lorsque l'on regarde le démantèlement de Microsoft, qui vient d'être ordonné par la justice américaine pour abus de position dominante, avec la scission entre l'activité de logiciels d'exploitation de base, Windows, et puis toutes les logiciels d'application qui sont maintenant séparés ou qui vont être séparés par la législation antitrust. Donc on retrouve exactement, avec le démantèlement de Microsoft et le procès antitrust contre Microsoft, le phénomène qu'on a eu avec la Standard Oil ou ATT, monopoles bien connus, qui ont été démantelés par la législation antitrust, où on impose la séparation entre ce qui est d'un côté l'infrastructure essentielle, qui est d'utilité publique, dans le cas de Microsoft, c'est le logiciel d'exploitation Windows, et puis les services à valeur ajoutée qui peuvent être séparés et qui doivent être séparés pour empêcher l'abus de position dominante de la part de l'opérateur. Donc ce sont des concepts qui sont très, très actuels. Ce ne sont pas seulement des concepts qui sont hérités d'une économie ancienne, mais ce sont des concepts de la nouvelle économie, parce que la nouvelle économie, eh bien, elle se construit elle aussi, comme l'économie industrielle du 19e siècle, comme l'économie industrielle du 20e siècle, sur des réseaux d'infrastructures qui apportent des services essentiels. C'était l'énergie, le transport ferroviaire avant, et puis aujourd'hui, c'est les infrastructures de télécommunication. Alors, les instruments de la réglementation, là aussi, j'en suis un peu dans les préliminaires avant d'aborder le sujet, la déréglementation, mais vous comprendrez à quel point il est très important de positionner l'exercice avant d'aborder le thème. Là aussi, reprenons les deux extrêmes, France et États-Unis. En France, la régulation et le contrôle des monopoles naturels, des services publics est assuré par l'État. Alors ça remonte à des traditions anciennes, c'était l'État régalien, l'État d'Ancien Régime, qui attribuait des concessions d'exploitation. Les compagnies des Indes, par exemple, c'était des monopoles d'exploitation accordés à des entreprises pour exploiter des concessions, les concessions de chemin de fer au XIXe siècle. Et puis nous avons eu, depuis une cinquantaine d'années, notamment après la Deuxième Guerre mondiale, l'extension des nationalisations. On a instauré des monopoles d'État. On a nationalisé les entreprises privées qui opéraient dans les régimes de concession pour en faire des monopoles d'État. Ça a été EDF, GDF, la SNCF, Air France, Air Inter, etc. Aux États-Unis, nous avons un système de régulation très, très différent. Très différent parce qu'il s'appuie sur des principes juridiques très, très différents, mais qui, au fond, aboutit à des contrôles analogues à ce qu'on observe en France. Les États-Unis, c'est un régime juridique de droit sans État. Nous vivons en France dans la philosophie du droit romain. Les États-Unis, c'est la common law anglo-saxonne, où l'État n'a pas de rôle particulier, notamment en économie. Il est un sujet juridique comme un autre. Et la régulation s'est imposée sous l'effet de la législation de la concurrence. Il y a eu des abus de position dominante dans les secteurs de monopole, il y a eu des trusts, il y a eu des plaintes devant les tribunaux de la part de consommateurs qui s'estimaient lésés par les politiques tarifaires prédatrices ou de la part de concurrents qui s'estimaient écrasés par l'abus de position dominante. Je rappelle que, pour reprendre l'exemple d'actualité de Microsoft, le principal plaignant contre Microsoft, ça a été Netscape, qui était un logiciel d'accès à Internet et qui a été écrasé par la toute-puissance de Internet Explorer de Microsoft. Donc il y a eu des plaintes, les tribunaux ont arbitré et ont estimé qu'il fallait contrôler les monopoles, soit les démanteler, la Standard Oil de Rockefeller, ATT, début des années 80, et puis Microsoft aujourd'hui, et en tout état de cause, les contrôler étroitement, par des autorités juridictionnelles. Voilà donc les deux principales formes de régulation. D'un côté, le monopole d'État et la tutelle administrative, c'est l'exemple français. De l'autre, la législation antitrust et le contrôle juridictionnel, c'est la voie américaine. Et puis, entre ces deux extrêmes, évidemment, vous avez toutes les combinaisons possibles. Les pays européens en particulier relèvent un petit peu d'un des modèles ou de l'autre ou des deux, et il y a actuellement, sous l'effet de l'intégration du marché européen, comme on le verra plus tard, une convergence des formes de régulation en Europe à partir de situations historiques et culturelles extrêmement différentes. Alors maintenant, à partir de ce tableau de la réglementation et de la présentation du sujet, qu'est-ce que c'est que la déréglementation? Alors, le paradoxe, c'est qu'en France, quand on dit dérégulation, on crée des autorités de régulation. Donc c'est un paradoxe quand même tout à fait saisissant. Dérégulation, ça veut dire plus de régulation. Alors je crois que les préliminaires que j'ai tracés permettent de comprendre le paradoxe. L'analyse comparative et l'analyse historique éclairent le paradoxe. Aux États-Unis, nous avions de la régulation. Depuis un certain temps, depuis une vingtaine d'années, la régulation a évolué. Il y a eu des réformes de la régulation, c'est ce qu'on appelle la regulatory reform, qui s'est traduit par davantage de liberté économique. Là où il y avait des régimes d'exclusivité, des régimes de monopole, des contraintes assez fortes, on a essayé d'introduire davantage de concurrence, davantage de liberté économique. Par exemple, dans le transport aérien, qui est le sujet par lequel la dérégulation a commencé, il fallait, sous l'ancien régime de régulation, disposer de licences pour exploiter des lignes aériennes entre deux villes. Eh bien, la dérégulation, ça consistait à abolir le régime des licences qui fait que n'importe qui peut ouvrir une ligne aérienne, pour autant bien sûr qu'il respecte un certain nombre de principes. Donc on n'a pas supprimé la régulation, il faut toujours montrer qu'on est compétent économiquement, financièrement, techniquement. Les réglementations de sécurité sont toujours très, très fortes, bien entendu, mais il n'y a plus besoin de licence pour exploiter une ligne aérienne. Voilà. Donc on a introduit davantage de liberté économique dans un régime de régulation qui existait déjà depuis fort longtemps, en général depuis 50 ans, voire un siècle, selon les secteurs concernés. Donc aux États-Unis, la dérégulation a été un mouvement progressif, un mouvement évolutif et réformiste. On a changé la régulation pour la rendre plus concurrentielle, moins monopolistique. En Europe, ça a été différent, en particulier dans les deux pays centraux de ce point de vue, l'Angleterre et la France. Nous avions des monopoles d'État dans ces secteurs depuis la guerre. L'énergie, l'électricité, le gaz, les télécommunications, les chemins de fer, etc. Eh bien, en Angleterre, on a démantelé et privatisé les monopoles. Et en France, eh bien, on les fait évoluer de manière plus progressive. Mais il est certain que dans le cas européen, le processus de dérégulation a un caractère beaucoup plus révolutionnaire, puisqu'on remplace un régime de monopole d'État par un régime d'entreprise privée, de concurrence. Donc ce n'est pas une simple évolution comme aux États-Unis, c'est une rupture. Dans les autres pays européens, bon, si on regarde par exemple l'Allemagne, eh bien en Allemagne, là aussi, le processus est plus évolutif. La régulation, c'était essentiellement des ententes, des cartels entre les entreprises, et on introduit la concurrence là où il y avait entente. Donc c'est un processus qui est beaucoup plus progressif que celui qu'on a vu en Angleterre. Alors proposons une définition plus précise de la dérégulation, de la déréglementation. On pourrait peut-être préférer le terme de libéralisation, alors, sauf que la libéralisation est beaucoup plus générale, la déréglementation est plus précise, plus concentrée, mais le véritable sens de la déréglementation, c'est d'introduire davantage de liberté économique et de concurrence dans les régimes de régulation. Alors, on dirait que c'est une expression complexe, il faut essayer de trouver des expressions ramassées, mais encore une fois, déréglementation, ce n'est pas très satisfaisant pour les raisons que je vous ai indiquées. La vérité, c'est qu'on recherche de nouvelles formes, de nouvelles pratiques de régulation avec davantage de liberté économique. Alors, il y a essentiellement trois instruments. Il y a le statut, il y a la structure et il y a le régime de concurrence. Alors, le statut juridique de l'opérateur, là où on avait des entreprises publiques, on privatise totalement ou partiellement. Là où on avait des régies ou des administrations d'État, on les transforme en établissements publics autonomes, voire en entreprises privatisées. Alors, le schéma des postes et télécommunications est particulièrement intéressant à méditer dans le cas français. Dans les PTT, nous n'avions jamais eu d'entreprise privée. Hein. Les postes remontent à Louis XI. Ensuite, au XIXe siècle, on y a ajouté les télégraphes. Et puis, au début du XXe siècle, le téléphone. Et ça a fait le ministère des PTT. Donc, ce n'était pas une entreprise, c'était un ministère. C'était une administration d'État avec des fonctionnaires. C'est une administration d'État qui gérait des installations comme une entreprise, mais c'était une administration. Les réformes se sont faites essentiellement deux étapes ou trois étapes. Il y a eu 1990 avec la création de deux établissements publics, La Poste et France Télécom, là où il y avait des administrations d'État. On a fait des entreprises publiques, des établissements publics. Et puis en 1996, on a transformé les statuts d'établissement public en sociétés d'État et on a commencé à privatiser France Télécom, qui aujourd'hui est privatisée pour une partie importante de son capital, avec évidemment le changement de statut des agents, et puis parallèlement l'ouverture de la concurrence dans certains segments du marché, limité encore s'agissant de la Poste, et quasiment en totalité s'agissant des télécommunications. Donc, évolution du statut juridique. Voilà le premier instrument de la déréglementation, passer de la régie à l'établissement public, de l'établissement public à l'entreprise publique, de l'entreprise publique à l'entreprise privatisée, en totalité ou partiellement. Deuxième instrument, les structures. Alors ça, c'est la déintégration, c'est-à-dire de démanteler le monopole. Alors on peut le couper dans le sens de la hauteur ou dans le sens de la longueur. Dans le sens de la hauteur, c'est la déintégration verticale, en créant des entités indépendantes, essentiellement au niveau des trois couches de la production, le transport et la distribution. Quand on a des services, il y a plus un service public, il y a en général ces trois unités. On le voit bien par exemple dans l'électricité, où il y a les centrales qui produisent l'énergie, il y a les réseaux qui la transportent, les réseaux de transport, et puis les réseaux de distribution qui la distribuent jusque chez les particuliers et les utilisateurs industriels ou domestiques. Donc la déintégration verticale consiste à séparer ces différentes couches, et en particulier à rendre autonome le réseau de transport de façon à le rendre d'accès égal pour tous. L'infrastructure essentielle à la concurrence mérite d'être régulée, notamment du point de vue de ses tarifs d'accès. Alors vous avez aussi la déintégration horizontale, géographique, qui consiste à découper géographiquement. Alors c'est ce qu'on a eu par exemple dans l'électricité aux États-Unis dans les années 1930, lorsque l'administration du New Deal s'est attaquée aux trusts de l'électricité, eh bien, elle a démantelé les trusts en compagnies régionales. Vous avez 300 compagnies d'électricité aux États-Unis aujourd'hui, là où à l'époque vous en aviez 5 ou 6. Vous avez eu la même chose dans le pétrole avec le célèbre démantèlement de la Standard Oil de Rockefeller. La Standard Oil, qui avait le monopole pétrolier, a été démantelée en une dizaine de compagnies régionales au début du siècle, au début du XXe siècle. Donc vous avez ces deux formes de déintégration et d'éclatement. Alors dans le cas Microsoft, cas d'actualité, ben c'est une déintégration verticale. Vous déintégrez l'infrastructure essentielle, c'est-à-dire le logiciel d'exploitation, Windows, et puis d'autre part les logiciels d'exploitation, les logiciels d'application, toutes les applications qu'on peut mettre sur Windows qui seront confiées à des sociétés différentes. Et puis vous pouvez aussi prendre une formule qui combine les deux déintégrations, à la fois verticale et horizontale. C'est l'exemple de l'électricité en Grande-Bretagne ou des chemins de fer en Grande-Bretagne qui ont été démantelés d'une part en compagnie de réseaux de production et de transport et puis également démantelés sur une base géographique. Par exemple, le monopole ferroviaire britannique a été démantelé en 60 entités indépendantes. Et le monopole électrique a été démantelé en 15 entités indépendantes au moment des réformes de la régulation au début des années 90. Donc ça, c'est le deuxième instrument de la dérégulation. Nous avions d'abord le statut juridique, deuxièmement la structure, la déintégration, et troisièmement la réglementation de la concurrence. Alors nous sommes dans des secteurs dits de monopole naturel, où il y a des rendements croissants, et donc la concurrence ne s'exerce pas naturellement. Il faut la surveiller. Il faut la surveiller en permanence parce qu'elle n'est pas naturelle. Ce qui est naturel, c'est la concentration qui risque d'aboutir sur le monopole et sur l'abus de position dominante. Donc il ne suffit pas de démanteler, il ne suffit pas de privatiser, il faut encore contrôler ce qui arrive après. Alors la concurrence dans les secteurs, je dirais, classiques de l'économie, elle est assez naturelle. Il y a des secteurs qui sont très atomistiques, où la concurrence est naturelle. Bon, il y en a d'autres, au contraire, où il faut la surveiller parce qu'elle ne s'impose pas d'elle-même. Alors, le monopole naturel, c'est que quand vous supprimez le monopole, bah, il se reconstitue. Hein. On chasse le monopole par la porte, il rentre par la fenêtre. Alors, nous avons des exemples. Le transport aérien aux États-Unis a été dérégulé il y a une vingtaine d'années. Et puis, on voit aujourd'hui que des positions dominantes se reconstituent au niveau mondial, puisque nous avons maintenant trois blocs d'alliances, hein, Global One, Star Alliance et un ou deux autres, qui réunissent des compagnies internationales. En général, vous avez un major européen et un major américain, plus d'autres compagnies d'Asie du Sud-Est qui viennent s'agréger. Et nous avons maintenant même des fusions, puisque il y a la semaine dernière, on annonçait la fusion entre United et, je crois, American Airlines ou quelque chose comme ça. Donc, on est en train de voir se constituer des positions dominantes à l'échelle mondiale et, qui sait, peut-être, dans quelques années, un monopole aérien mondial qui posera évidemment de gros problèmes. Bon, nous avons la même chose dans les télécommunications. On a supprimé le monopole des PTT, les opérateurs historiques ont été challengés par de nouveaux entrants, et on est en train de voir se reconstituer des positions dominantes. C'est ça d'ailleurs l'explication de la spéculation boursière actuelle sur les titres des télécommunications, c'est qu'il y a une course à la taille, notamment sur les nouveaux segments, le téléphone mobile et l'accès à Internet, et on va peut-être voir se reconstituer des monopoles, parce qu'actuellement tout le monde est en train d'essayer de racheter tout le monde, mais il y en a qui vont gagner et d'autres qui vont perdre. Ceux qui vont perdre se feront racheter, et on risque d'avoir dans quelques années des monopoles tout à fait impressionnants. Alors ça pose évidemment des problèmes importants, parce qu'il faut surveiller la concurrence, et puis quelque part il faut peut-être aussi transférer la régulation à l'échelle globale, parce que la taille nationale n'est plus suffisante. Bon, quelque part, la justice américaine, quand elle démantèle Microsoft, elle se comporte en autorité antitrust globale, parce que le monopole de Microsoft, il est global, il n'est pas seulement sur le marché américain. Donc ça pose évidemment toute une série de problèmes nouveaux. Alors maintenant, le mouvement de déréglementation, qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années? Bon, la déréglementation, ça fait partie d'une vague d'ensemble qui forme un tout avec d'autres éléments de ce qu'on pourrait appeler la révolution libérale. Ça va avec la privatisation, ça va avec la désinflation, ça va avec la globalisation. Donc c'est un mouvement mondial qui est parti des États-Unis et du Royaume-Uni il y a une vingtaine d'années, donc qui est parti des pays anglo-saxons, qui s'est ensuite diffusé à l'Europe occidentale et qui a gagné ensuite les pays d'anciennes économies planifiées, le bloc de l'Est, l'ex-URSS, la Chine, et puis également les pays en développement. Donc c'est un mouvement global. On ne peut le comprendre que si on le considère comme un tout, comme un ensemble dans un tout qui est, je dirais, la contre-révolution de la révolution keynésienne. Nous avons eu un phénomène du même genre il y a 50 ans, sauf qu'il allait dans le sens inverse. C'était la montée des idées de planification, de dirigisme, d'état-providence, qui a démantelé le vieux cadre de l'économie classique, de l'économie capitaliste, de l'économie marchande du 19e siècle, qui s'était effondrée dans la crise des années 1930. Donc le redressement de la crise des années 1930, ça a été la mise en place d'un nouveau modèle économique, qui était le modèle keynésien, avec une part importante de l'État dans la régulation de l'économie. Bon, ce à quoi nous avons assisté depuis 20 ans, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire le retour au principe du libéralisme économique, du libre-échange, de l'économie privée, de l'entreprise qui régnait avant la révolution keynésienne. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que c'est un mouvement qui est transnational et aussi transpartisan. Aux États-Unis, la dérégulation, elle a commencé sous l'administration Carter à la fin des années 70, c'est-à-dire que c'est la gauche américaine, le Parti démocrate, qui a développé la dérégulation au nom du consumérisme, au nom de la protection des consommateurs et au nom également de la protection de l'environnement. Je rappelle qu'un des principaux pionniers de la dérégulation au niveau politique, c'était Ralph Nader, célèbre avocat consumériste qui a attaqué les monopoles et les positions dominantes des grandes industries, qui d'ailleurs est aujourd'hui candidat à la présidentielle aux États-Unis sous la bannière écologique, un nouveau parti qui est en train de se créer. Au Royaume-Uni, en revanche, c'est un mouvement au contraire de droite, hein, puisque c'est Madame Thatcher, ultra-libérale, portée au pouvoir par une vague de réaction contre l'État-providence, contre l'excès d'inflation, l'excès de pouvoir des syndicats, qui a dérégulé les services publics britanniques, qui a démantelé les monopoles d'État et qui les a privatisés. Donc c'est transcourant, c'est transpartisan, c'est transnational, un petit peu d'ailleurs comme la révolution keynésienne avait été transpartisane et transnationale. C'est un mouvement idéologique, politico-idéologique, qui se fait à l'échelle globale. Alors, dans chaque pays et dans chaque zone, le vecteur de la dérégulation a été très différent. Aux États-Unis, ça a été le consumérisme, l'idée que dans un certain nombre de secteurs, les producteurs étaient trop protégés avec les régimes d'exclusivité, des monopoles, qu'ils abusaient de leur position dominante, donc il fallait leur donner l'aiguillon de la concurrence pour qu'ils satisfassent mieux les besoins des consommateurs. En Angleterre, ça a été un mouvement destiné finalement à briser la puissance des syndicats, qui étaient solidement installés dans les bastions du service public, du monopole public. Donc c'était une confrontation, je dirais, politique, une confrontation de classe. En Europe occidentale, ça a été essentiellement sous l'influence du marché unique européen, donc l'intégration européenne, qui a été le vecteur de la dérégulation des monopoles et des services publics dans tous les pays, notamment en France. C'est à travers l'Europe que la dérégulation s'est introduite en France. Dans les pays du bloc de l'Est, c'était la désoviétisation. C'était lié, bien entendu, à la fin, à l'effondrement du modèle de l'économie planifiée et à l'introduction de régimes de liberté économique. Quant aux pays en développement, ça a été encore autre chose. Ça a été essentiellement la crise de la dette. Les pays en développement, notamment d'Amérique latine ou d'Asie du Sud-Est, étaient très endettés, avaient financé leur développement dans les années 60 et 70 par de la dette. Il y a eu une grande crise de la dette dans les années 80 qui a conduit ces pays à passer sous la coupe de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, qui leur ont imposé un certain nombre de réformes de leur économie comme condition d'octroi de prêts et qui ont introduit donc la libéralisation, la privatisation et la dérégulation des services publics par le biais donc des contrôles financiers. Donc dans les pays en développement, principalement en Amérique latine, mais c'est également vrai en Asie du Sud-Est, en Asie du Sud et en Afrique, la déréglementation s'est introduite par le biais de facteurs financiers. Alors les raisons de la déréglementation, il faut regarder l'argumentaire qu'il y a derrière. L'amélioration de la gestion, quand il y a des secteurs de monopole, de régime d'exclusivité, soit contrôlés par l'État, des monopoles d'État, soit protégés par des réglementations, des autorités de régulation, eh bien, il y a de la mauvaise gestion, il y a des sureffectifs, il y a une surtarification, il y a des corporatismes qui s'installent. Il y a également une pénalisation de l'innovation technologique. Les monopoles exploitent les technologies connues et n'ont pas d'incitation à développer les nouvelles techniques. Il y a l'ouverture internationale, le fait que le libre-échange s'attaque maintenant à des secteurs qui étaient jusqu'à présent protégés et isolés du libre-échange. Donc il y a une contamination internationale. Dans le transport aérien, ça a été particulièrement visible. La déréglementation du transport aérien est née aux États-Unis. Elle s'est transportée sur les liaisons transatlantiques très rapidement. Et de ce fait, l'Europe a été obligée également de se couler dans le moule de la déréglementation sous la pression de la compétition internationale. Alors, il y a également les mutations technologiques. Les réglementations et les régimes de monopole handicapaient et freinaient l'innovation. Et en même temps, la libération des innovations a permis la déréglementation. Pourquoi ? Parce que, dans un certain nombre de cas, on a pu s'affranchir de l'effet de monopole naturel. Alors, prenons un exemple particulièrement visible, c'est celui des télécommunications. Il y avait dans les télécommunications toute une série d'innovations techniques qui ne demandaient qu'à se développer à cause des progrès de la microélectronique et de l'informatique, en particulier le téléphone mobile, en particulier Internet. Et il est certain que les effets de monopole naturel sur ces segments ne sont pas du tout les mêmes que ceux qui existaient avec les réseaux de fils de cuivre. Bon, quand vous avez un réseau d'infrastructures avec des fils de cuivre télégraphiques ou téléphoniques, il n'est pas évident de créer de la concurrence. Dès que vous utilisez l'espace hertzien pour la communication, pour le sans fil, pour le téléphone sans mobile, ou bien pour la télédiffusion par satellite, vous affranchissez, bien entendu, beaucoup de la contrainte de l'infrastructure. Et donc, vous pouvez créer de la concurrence là où il n'y en avait pas. Alors, les expériences, j'ai déjà eu l'occasion d'en dire un mot. Le mouvement est né aux États-Unis, sous l'administration Carter. Le premier secteur, donc, sous l'influence des préoccupations consuméristes. Donc c'était dans le cadre de la lutte contre l'inflation. Il y avait à la fin des années 70 une très forte inflation aux États-Unis. On cherchait les moyens de calmer cette inflation. Donc on s'est dit qu'il fallait créer de la concurrence dans des secteurs où il n'y avait pas de concurrence, parce que la concurrence est le meilleur moyen de faire baisser les prix ou de discipliner les comportements tarifaires. Donc dans le contexte de la désinflation, dans le contexte de la protection des consommateurs, l'administration démocrate a cherché à modifier les régimes de régulation qui existent dans certains secteurs, et ça s'est fait avec succès, et en quelques années, le paysage a été entièrement bouleversé. Alors ça a commencé dans les transports aériens en 1978, on a abrogé le régime des licences, il s'en est ensuivi une véritable révolution du transport aérien, avec une transformation des acteurs, les acteurs traditionnels importants comme Panam ou TWA ont disparu, et on a vu émerger de nouveaux acteurs comme United, American Airlines, Northwest, etc., qui étaient des compagnies régionales, qui sont devenues des compagnies mondiales. Il s'en est ensuivi une très forte baisse des tarifs, et cette forte baisse des tarifs a engendré l'arrivée sur le marché de consommation de nouvelles catégories de consommateurs. Et il y a eu donc un cercle vertueux de baisse des prix et de très forte expansion de la demande qui a été extrêmement sensible, parce qu'évidemment l'opinion publique a vu immédiatement les bénéfices et les résultats de la dérégulation. Et la dérégulation des transports aériens a rendu le mouvement de dérégulation extrêmement populaire, y compris d'ailleurs en Europe, puisqu'on voyage aujourd'hui en avion beaucoup plus facilement qu'il y a 10 ou 20 ans. C'est devenu un bien de masse, alors qu'il y a 20 ans, c'était un bien de luxe. Ça s'est ensuite poursuivi dans l'électricité, avec la libéralisation de la production indépendante, qui a engendré une profonde transformation du secteur, et notamment qui a donné lieu à une considérable innovation technologique, qui a été les centrales à gaz, les turbines à gaz, les cycles combinés, qui ont révolutionné la production d'énergie électrique. Et c'est une innovation technique qui a pu émerger à cause de la libéralisation de la production indépendante d'énergie aux États-Unis. Les télécommunications sont le troisième exemple spectaculaire. Il faut noter d'ailleurs que la libéralisation et la dérégulation des télécommunications est venue d'une décision de justice, comme Microsoft aujourd'hui. Ce n'est pas l'État qui a légiféré, c'est la justice qui, dans des procès antitrust, a estimé qu'il fallait démanteler le monopole AT&T, qui avait le monopole du téléphone aux États-Unis. Et à ce moment-là, donc, on a instauré la séparation entre les télécommunications à longue distance et les télécommunications locales, On a séparé la fabrication de matériel et de technologie, donc qui auparavant était intégrée dans ATT. C'est ATT qui non seulement gérait le service du téléphone, mais fabriquait les équipements de commutation et les terminaux téléphoniques. Et il s'en est ensuivi, là aussi, une véritable révolution, puisque c'est de là qu'est sortie la révolution du téléphone portable, d'Internet, etc. Voilà, donc la naissance de la déréglementation, c'est les États-Unis, fin des années 70, début des années 80. En Europe, ça a été l'expérience du Royaume-Uni, qui était une expérience de rupture, donc le démantèlement, la privatisation et la désyndicalisation des monopoles d'État. Ça a commencé par le transport aérien, la privatisation de British Airways en 83, la privatisation de British Telecom en 1984, de British Gas en 1986. Alors dans ces trois cas, on avait des entreprises publiques importantes, dominantes, qui ont été privatisées. Il s'en est ensuivi des controverses, parce qu'on a reproché bien sûr d'avoir remplacé des monopoles publics par des monopoles privés, ce qui n'est pas forcément meilleur, et souvent même produit des résultats inverses. Et les dérégulations suivantes, le gouvernement britannique a pris la précaution, alors je ne sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, l'avenir le dira, mais de démanteler et de déintégrer les monopoles publics avant de les privatiser. Ça a été le cas de l'électricité en 1990 et du chemin de fer en 1992. Alors ensuite, à partir des pays anglo-saxons, la dérégulation s'est diffusée internationalement. Elle s'est diffusée en Europe occidentale, principalement à travers les directives du marché unique européen. Bon, le traité du marché unique, c'est l'acte unique de 1985, qui a décidé d'étendre le principe du marché, c'est-à-dire du libre-échange et de la concurrence, à des secteurs qui en étaient auparavant exclus, et qui a également décidé que les directives seraient dorénavant, dans ces secteurs, appliquées à la majorité qualifiée et non plus à l'unanimité. Alors la combinaison de ces deux dispositions, extension du principe du marché commun, qui existait depuis 1957, aux secteurs exclus, c'est-à-dire principalement aux services publics, et deuxièmement, facilitation de l'adoption des directives en remplaçant le régime de l'unanimité par le régime de la majorité qualifiée, eh bien, ces deux dispositions, qui au départ sont passées relativement inaperçues, qui paraissaient assez techniques, ont engendré une véritable révolution, puisque venant en conjugaison de ces nouvelles formes de politique économique liées à la libéralisation, elles ont introduit la dérégulation des services publics dans tous les pays européens. Nous avons eu également l'exemple des pays de l'Est. Bon, j'en parlais tout à l'heure, c'est essentiellement la conséquence de l'effondrement du modèle soviétique. Tous ces pays ont adopté des régimes d'ouverture et s'attaquant notamment au régime de services publics en Pologne, en Hongrie. Les expériences ont été tout à fait importantes, Tchécoslovaquie, Hongrie et Pologne. En attendant, bien sûr, les autres pays d'Europe de l'Est qui sont pour l'instant encore plus conservateurs dans leur forme de gestion économique. Et puis les pays en développement, essentiellement en commençant par l'Amérique latine. L'Argentine, le Brésil ont été les pionniers en matière de privatisation et de réglementation de leurs services publics. Alors, le cas de la France. Alors, en France, nous avons le service public à la française, le service public industriel et commercial. Là aussi, problème sémantique, parce que ce concept est intraduisible dans les autres langues, de même que déréglementation, c'est une mauvaise traduction d'un concept importé artificiellement, qui est deregulation. En sens inverse, le mot de service public français est intraduisible et inexportable. Alors c'est une notion très importante dans la société et les institutions françaises. C'est une notion qui est composite et englobante. C'est apparemment simple, mais cette simplicité jette une trompeuse clarté. C'est en fait un amalgame dans lequel il y a à la fois du social, du politique, de l'idéologique. Alors, les services publics industriels et commerciaux en France, c'est une zone frontière. C'est un peu le noyau de transition entre la sphère de l'État et la sphère de l'économie de marché. Les services publics, c'est les services publics régaliens, la police, la justice, la diplomatie, sociaux, l'éducation, la santé, et puis c'est les services publics industriels et commerciaux. Et ça, on n'est pas très loin à ce moment-là de la zone de l'entreprise. Alors c'est une zone frontière, et comme toute zone frontière, c'est une zone qui bouge en fonction des évolutions historiques, des tendances dominantes. Les services publics industriels et commerciaux appartenaient historiquement plutôt à la sphère du privé. Bon, ils sont ensuite rentrés dans la sphère du public, et actuellement, avec la déréglementation, ils sont en train de prendre une certaine distance avec la sphère publique. C'est une zone qui bouge. Alors, les origines historiques, c'est la conception régalienne. C'est l'Ancien Régime qui accordait des concessions d'exploitation. À l'époque, sous l'Ancien Régime, l'économie était dans la main du pouvoir. Le pouvoir était absolu et s'étendait à toutes les zones de la société. Et on ne pouvait pas exercer d'activité économique sans autorisation publique. Bon, les paysans étaient soumis au régime féodal. Les infrastructures de la vie agricole étaient contrôlées par les seigneurs, le moulin, les différentes installations de valorisation des produits agricoles. Dès qu'il y avait des activités d'une certaine envergure, c'était le pouvoir royal qui les contrôlait. C'était les concessions minières, les concessions de transport, les concessions d'exploitation des colonies. Donc c'était le régime régalien. Alors la révolution de 1789 a aboli ces réglementations. Donc il y a eu des déréglementations. La loi Le Chapelier, la nuit du 4 août, ça a été des déréglementations. C'était des mouvements de libéralisation économique et sociale. Et on a introduit de la liberté d'entreprise là où il n'existait pas. Donc on a abrogé en partie ces régimes d'encadrement par l'autorité régalienne. Ensuite, au XIXe siècle, nous avons eu la naissance du service public républicain, donc les principes d'égalité d'accès, d'égalité de traitement, alors notamment bien entendu dans les grands services publics sociaux comme l'éducation nationale, l'instruction publique, la santé publique, et puis aussi dans un certain nombre de secteurs industriels, on a instauré des principes d'égalité d'accès, d'égalité de traitement. Le cas des chemins de fer a été particulièrement évident. Le droit au transport, la nécessité pour les compagnies ferroviaires titulaires des concessions de desservir toutes les localités de France. C'était le service public du transport ferroviaire. La crise de l'entre-deux-guerres a précipité les concessions de services publics dans la crise. On a reproché aux trusts privés qui géraient les concessions, notamment de chemin de fer, d'électricité, etc., d'abuser de leur position dominante. Et tout ceci a abouti au mouvement de l'après-guerre, qui a véritablement cristallisé le service public à la française. Donc c'est une remarquable construction, très homogène, qui date de 1945-46. Les monopoles nationaux sont nationalisés, sont placés sous le contrôle de l'État. Il y a les grandes entreprises nationales, EDF, GDF, Air France, Air Inter, la SNCF, la Poste, les télécommunications. Donc il y a une très grande homogénéité. C'est un projet républicain, donc l'égalité d'accès. C'est un projet économique, la reconstruction des infrastructures essentielles au développement du pays, les grands projets technologiques, l'électrification du chemin de fer, les centrales hydroélectriques, puis les centrales nucléaires, le TGV, Airbus, les centraux de commutation électronique. Les grands services publics sont des vecteurs de modernisation de projets colbertistes. Et puis c'est évidemment aussi le progrès social, puisque les grandes entreprises publiques sont les points d'avancement des négociations sociales, la base de la puissance syndicale et le front de conquête des avantages sociaux. Donc c'est un modèle qui a joué un rôle majeur dans l'économie et la société française depuis 50 ans. Alors ce modèle a été mis en cause et mis en jeu par le mouvement de déréglementation, par les idées venues d'ailleurs. Ça s'est fait très concrètement par le biais des directives européennes du marché unique. L'Europe a été, depuis le traité de Rome, un vecteur majeur de modernisation et de transformation de la France, à commencer par le libre-échange. Ça s'est poursuivi par la stabilité monétaire, avec la parité franc-marque et ensuite par l'euro. Et puis, dans les services publics, l'Europe a introduit le vecteur de la concurrence. Alors, nous sommes en plein dans cette phase de transition. Nous avons un monument historique de très grande ampleur, très solidement implanté et très populaire. Les services publics en France ont une très bonne réputation, contrairement en Angleterre où ils avaient une mauvaise réputation. C'est pour ça que le gouvernement conservateur a pu les transformer profondément. En France, ce n'est pas du tout la même situation. C'est une situation où les services publics sont appréciés du public, ont incontestablement des résultats très, très valorisants à présenter du point de vue des performances économiques, technologiques et sociales, ce qui n'exclut pas certaines lourdeurs et la nécessité de modernisation. Et on peut penser que la France va progressivement acclimater la déréglementation, mais en l'apprivoisant pour la conformer à son modèle. Autrement dit, l'évolution française, ce n'est pas l'évolution américaine, ce n'est pas l'évolution britannique, c'est un système particulier, adapté à nos traditions et à notre culture. Voilà donc ce que je voulais vous dire. Je crois que je suis à peu près aux 50 minutes. Merci de votre attention. Et bien entendu, je suis prêt à débattre avec vous.
Bonjour, je suis fonctionnaire, donc ça va peut-être impliquer une certaine forme de poser la question. Je suis venu à une conférence hier, celle d'aujourd'hui se ressemble. Il y a toujours l'évacuation du rapport de force et des idéologies qui sont derrière. Est-ce que vous ne pensez pas que derrière ce mouvement, il y avait la volonté en période de crise pour un certain nombre d'entrepreneurs et de multinationales de récupérer des marchés qui étaient porteurs et donc de déshabiller les marchés porteurs dans le public pour reconstituer leurs marges. Donc ma question, c'est quid de l'idéologie derrière ce mouvement? Par exemple, M. Cohen, qui est un haut fonctionnaire de l'EDF, disait que d'un côté, Quilles, le ministre de l'époque, protestait des fourches codines européennes à Paris et votait à l'unanimité au niveau des conseils de ministres spécialisés à Bruxelles. Donc sur ce double langage et sur ce rapport de force économique et idéologique que nous... Pouvez-vous nous dire ? Merci.
Il me semble que s'il y a quelque chose que j'ai dit, c'était que c'était un sujet fondamentalement politique et idéologique. Donc je n'ai pas du tout évacué le sujet. C'est un sujet qu'il faut traiter sous plusieurs éclairages. Alors, c'est parce que c'est un sujet tout à fait important. C'est un nœud. C'est un nœud de sujet. Alors vous pouvez le regarder sous l'angle économique, vous pouvez le regarder sous l'angle social, vous pouvez le regarder sous l'angle politique, sous l'angle international. Alors c'est vrai qu'il y a... Sous l'angle international, il y a des rapports de force internationaux. Il est incontestable que les États-Unis, qui ont, disons, imposé le libre-échange à la planète depuis 1945, pour le grand bénéfice d'ailleurs, globalement, puisque les gens sont plutôt attachés au libre-échange, même s'il y a des moments de contestation de la globalisation aujourd'hui quand elle va trop loin, mais aujourd'hui c'est le libre-échange qui triomphe. Il triomphe. Bon. Alors, après le libre-échange, l'abolition des obstacles aux échanges, des droits de douane, eh bien, depuis une vingtaine d'années, les milieux américains, notamment sous l'influence des grandes entreprises américaines, cherchent à ouvrir les marchés protégés. En particulier, les marchés des services publics sont des marchés souvent de haute valeur ajoutée, parce que les technologies des services publics sont des technologies souvent sophistiquées. Alors, bien sûr, la défense, il ne faut pas oublier que la défense est un service public. Les marchés d'armement, ce sont des marchés très importants, notamment pour les entreprises américaines, mais les marchés des télécommunications, les marchés de l'énergie... Tout ça sont aussi. Alors, incontestablement, ça fait partie des angles de vue qu'il faut porter sur la déréglementation, c'est l'influence des grands groupes multinationaux. C'est exact. Alors, tout ça est un débat. Bon, c'est-à-dire qu'il y a des arguments pour, des arguments contre, chacun a sa position, selon sa provenance, selon sa formation. Alors, moi, je dois vous dire que je m'intéresse à ces sujets depuis fort longtemps. J'ai fait des études en France, j'ai fait l'école polytechnique, qui est quand même un des. Pilier du service public à la française, hein, le pilier colbertiste, dirigiste, les grands projets technologiques, c'est quand même l'école polytechnique. Les grandes entreprises publiques sont gérées, sont dirigées souvent par des ingénieurs issus de cette filière. J'ai fait des études à Harvard. J'ai passé 3 ans à Harvard. J'ai fait un doctorat d'économie publique. Et à une époque où on commençait à parler de la dérégulation, où les réglementations étaient contestées par des économistes qui reprochaient aux entreprises régulées de capturer le régulateur, de se mettre des positions d'exclusivité. Et puis j'ai eu une carrière de 15 ans au ministère de l'Industrie où j'ai vu beaucoup de choses, et puis depuis 12 ans à EDF où je vois également beaucoup de choses et surtout où je voyage beaucoup. C'est-à-dire que je fais énormément de comparaisons internationales avec ce qui se passe aux États-Unis, dans les pays européens, dans les pays du tiers-monde, etc. Donc moi j'essaie de vous parler, alors sans doute avec des présupposés idéologiques, tout le monde en a, mais... J'ai une certaine expérience de ce sujet. Et en tout cas, je confirme bien que c'est un sujet fondamentalement politique, mais qui n'est pas seulement politique, mais qui est aussi économique. Il n'y a pas seulement des a priori et des positions politiques. Il y a aussi des choses qui sont plus ou moins vraies, plus ou moins fausses. Il y a un peu d'évaluation. Alors, quel bilan peut-on tracer de la dérégulation ? Je crois d'abord qu'elle est populaire. Elle est populaire parce que dans le transport aérien aux États-Unis, dans les télécommunications, on a vu le résultat. Le résultat, c'est qu'il y a beaucoup plus de gens qui voyagent en avion aujourd'hui qu'il y a 20 ans, et la déréglementation n'y est pas étrangère, parce que ça fait baisser les prix, ça multiplie les services et les liaisons. Dans les télécommunications, elle est populaire, parce qu'on voit bien que le mobile, ça apporte, quand le téléphone mobile ou Internet, ça apporte beaucoup plus que le téléphone classique. Alors, les monopoles de PTT auraient sans doute développé ces nouvelles innovations, mais sans doute moins vite que sous l'effet de la concurrence. Alors, le transport aérien et les télécommunications sont deux secteurs où l'opinion publique a pu se rendre compte des avantages. Bon. Dans les télécommunications, il faut bien reconnaître que qui aurait pensé il y a encore 10 ans que les PTT auraient pu être coupés en deux ? Vous vous rappelez que les syndicats des PTT tenaient beaucoup à l'union entre la Poste et les télécommunications. C'était un sujet tabou, on ne pouvait pas toucher à l'intégration Poste-Télécom. Qui aurait pensé qu'on puisse séparer la Poste et les télécoms ? Et encore plus, qu'on puisse créer la concurrence dans les télécoms et privatiser partiellement France Télécom. Bon, aujourd'hui, l'opinion publique est majoritairement en soutien. Bon. Alors, ce qui s'est passé depuis 10 ou 20 ans ne préjuge pas de ce qui va se passer dans le futur. Bon, moi, je vous ai dit, je pense véritablement que nous avons dans le domaine des fusions, restructurations, concentrations et mouvements boursiers dans le secteur de la nouvelle économie des excès. Et tout ceci risque de conduire à des conséquences graves, un krach boursier. Je rappelle que la crise des années 30 est venue d'un krach boursier, 1929, pour des raisons d'ailleurs similaires. Il y avait aussi une spéculation très forte sur la nouvelle économie d'époque. La nouvelle économie d'époque, c'était les trusts de l'électricité qui ont engendré des mouvements de concentration et de spéculation tout à fait considérables. Bon, le fait que Bill Gates et Microsoft se fassent condamner par la justice américaine, bon, bah, comme vous savez, ces choses-là sont compliquées. Y a-t-il ou non un but de position dominante ? Ça peut mobiliser des centaines de juristes pendant des décennies. Le procès antitrust contre AT&T, il a duré un siècle. Et d'ailleurs, il n'est toujours pas terminé. Donc ce sont des choses qui ne sont pas évidentes. Il n'empêche que la justice américaine, qui est quand même une justice qui sait faire son métier et qui essaye de raisonner avec sagesse, même si c'est avec des présupposés idéologiques, elle a déclaré que Bill Gates abusait de sa position dominante. Donc ça prouve bien que ce n'est pas évident. Ça prouve bien qu'il y a de l'eau dans le gaz, comme on dit. La globalisation elle-même commence à être contestée. L'an 2000, ça a été la fusion AOL-Time Warner, mais ça a été aussi les événements de Seattle, c'est-à-dire le début de la cristallisation d'une contestation organisée et homogène de l'ordre global, qui rappelle tout à fait ce qui s'est passé un siècle plus tôt. Le mouvement social s'est cherché pendant une cinquantaine d'années. Face au capitalisme dominant du 19e siècle, la contestation sociale s'est cherchée. Et puis elle s'est trouvée avec le marxisme à la fin du 19e siècle. Et bien de la même manière, la contestation de la globalisation, ça fait une vingtaine d'années qu'elle se cherche. Tout le monde n'est pas d'accord, même si c'est une idéologie dominante. Et elle a peut-être commencé à se trouver avec Seattle. Donc nous sommes fondamentalement dans un débat idéologique. Alors j'avais préparé, malheureusement je n'ai pas eu le temps de le faire compte tenu de l'emploi du temps, de terminer mon exposé en parlant du secteur électrique, parce que le secteur électrique, je le connais bien, et c'est tout à fait symbolique du service public et la dérégulation. J'ai essayé, sur ces tableaux, de montrer que le secteur électrique, son évolution, l'évolution de sa régulation, vous voyez à travers l'évolution de la régulation de l'électricité, tous les débats politique et idéologique du XXe siècle. Le secteur électrique au début du siècle, l'industrie électrique, elle est née vers 1880 avec les inventions fondamentales de Thomas Edison. Première phase, 1880-1920, l'industrie électrique, elle est privée, elle est proliférante, c'est des tas d'entreprises, des tas d'ingénieurs, inventeurs qui font fortune sur leurs brevets, un petit peu comme l'informatique aujourd'hui. C'est la nouvelle économie de l'époque. Donc c'est le modèle schumpeterien, des entrepreneurs inventifs qui construisent des empires sur leurs inventions. L'exemple le plus typique étant Thomas Edison, qui a créé de gigantesques trusts électriques et dont une des entreprises, puisque son empire a été démantelé par la loi antitrust dans les années 30, une des pièces de son empire est encore la plus grande entreprise du monde, c'est General Electric. Après la Première Guerre mondiale, l'industrie électrique est en pleine croissance et on voit à ce moment-là des phénomènes de concentration. Donc c'est plus le capitalisme entreprenant et inventif, c'est le capitalisme rentier. Ce sont les monopoles, les trusts. Et puis ensuite, les trusts, ils sont contestés parce qu'ils en font trop. Donc ils sont contestés par les syndicats, par les ruraux qui estiment qu'ils ne sont pas desservis dans les campagnes, parce que les trusts, évidemment, ils ne vont pas poser l'électricité là où il n'y a pas de rentabilité, où la densité démographique est trop faible. On reproche aux trusts de ne pas développer l'hydroélectricité, les grands barrages, et donc on régule et on nationalise. Alors la régulation aux États-Unis, c'est le démantèlement des trusts, c'était aussi la création d'entreprises publiques. Roosevelt crée des entreprises publiques pour exploiter les ressources hydroélectriques. Et puis en France, c'est la nationalisation d'EDF, et c'est le dirigisme, la reconstruction. Alors, je poursuis cette revue du XXe siècle. cette revue politico-idéologique du XXe siècle vue à travers la régulation de l'électricité. Phase suivante, bah, les années 1950-1980, ce qu'on appelle les Trente Glorieuses. Donc on a un régime juridique qui est en place, qui est le service public. Il y a l'idéologie de l'État-providence, donc le développement social, la croissance, la régulation, les tarifs. Et donc ça, c'est le modèle EDF des années 50 à 80, où le cas français est certainement le modèle le plus achevé et qui est d'ailleurs admiré et respecté dans le monde entier de régulation et d'organisation de l'industrie électrique. Donc c'est le monopole d'État social, colbertiste, avec d'excellents résultats. Et puis, bah, depuis 20 ans, nous sommes passés à la libéralisation, c'est-à-dire la dérégulation, l'écologie aussi, puisque les mouvements de protection de l'environnement contestent ce secteur électrique. Donc il y a une nouvelle phase qui s'est ouverte, où le modèle français, bah, il n'est plus tout à fait en pointe. Ce qui est dans le sens de l'histoire aujourd'hui, c'est plutôt le modèle britannique. Quand un pays se pose des questions de réforme de son secteur électrique, c'est plus en France qui vient regarder, c'est en Angleterre. Alors peut-être à tort, mais le fait est là. La pensée dominante aujourd'hui en matière électrique, c'est dérégulation, concurrence, centrale de petite dimension, liée d'ailleurs au changement du régime de croissance. L'électricité n'est plus un secteur en très forte croissance, c'est un secteur en croissance ralentie, et donc à régime de croissance différent, régime de régulation différent. Donc, je vous parle de l'électricité parce que c'est un cas concret sur lequel on voit beaucoup des points dont je parlais au niveau général, et en particulier, il est frappant de voir que les cinq phases de la régulation de l'industrie électrique au XXe siècle, hein, depuis 1880, depuis 120 ans, eh bien, nous avons sur chacune de ces phases des régimes de régulation différents qui incarnent et qui reflètent exactement les pensées économiques dominantes de l'époque. Alors, ce n'est pas parce qu'une pensée économique est dominante qu'elle est juste, puisque dans l'économie, il y a de la science, mais il y a aussi de la politique, mais le fait est là. Le fait est là, il y a une pensée qui s'impose. Alors peut-être que nous sommes aujourd'hui à la fin du cycle. Hein, peut-être qu'on est allé trop loin en matière de dérégulation. Peut-être que maintenant on va avoir des effets secondaires négatifs. Hein. J'ai parlé de la concentration dans le secteur aérien. J'ai parlé des abus de position dominante et de la spéculation boursière dans les télécommunications. Il est possible qu'on s'oriente maintenant vers de nouvelles politiques. Mais incontestablement, depuis 20 ans, l'idéologie qui règne dans le secteur, c'est la déréglementation.
Justement, à ce moment-là, je me pose une question un petit peu sur la finalité, parce que si à court terme, on peut comprendre effectivement la finalité de dérégulation, à long terme, si on en revient, comme vous dites, à des questions, des monopoles qui se recréent, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue, c'est toujours la même chose qui se reproduit. Donc, quelle est la finalité de ce type d'approche et de ce type de politique économique ?
Alors, il y a effectivement un petit peu une approche cyclique dans tout ça, hein, la vérité d'aujourd'hui et l'erreur de demain et réciproquement. Alors si on interprète ça, bon, vous pouvez l'interpréter politiquement et idéologiquement, hein, c'est vrai que les idéologies ont changé dans le monde aujourd'hui, le marxisme n'est plus tout à fait la force entraînante qu'il avait il y a 50 ans, on est obligé de le reconnaître, et puis alors, ça ne veut pas dire que la contestation est supprimée, simplement elle se déplace. Alors si on raisonne en termes économiques, donc, parce qu'il y a plusieurs angles de vue. Bien, vous pouvez le regarder justement par le prisme du monopole naturel. Quand vous avez des secteurs de monopole naturel, vous engendrez des concentrations. Les concentrations débouchent sur des monopoles. Les monopoles commettent des abus de position dominante qui conduisent à la régulation et quelquefois à la nationalisation, qui à son tour engendrent des conséquences négatives, parce que quand vous avez des régimes de monopole ou des positions d'exclusivité, bah, vous avez parfois de la mauvaise gestion, des comportements malthusiens et corporatistes. À ce moment-là, vous avez une demande de concurrence, et la concurrence, à ce moment-là, on repart sur le cycle, comme vous dites, le serpent qui se mord la queue. Alors, c'est une façon de voir, alors, sauf que, bien entendu, l'histoire ne se répète jamais, mais il y a quand même des régularités. Donc, c'est un des angles de vue pour expliquer la déréglementation, c'est à travers ce phénomène de concurrence instable. Il n'y a pas de bon régime. Il y a une alternance entre des régimes de monopole et des régimes de concurrence, aucun n'étant parfait, chacun engendrant des virus et des contre-réactions. C'est une façon de voir les choses.
Oui, vous avez donné comme cause essentielle de la déréglementation la lutte contre l'abus de position dominante. Il me semble qu'il y a une autre cause qui est sous-jacente, qui est le reproche que l'on fait en général aux services publics et aux administrations, qui est, et d'ailleurs vous y avez fait allusion, qui est un certain manque de dynamisme et une certaine inefficacité. La question que je veux poser, c'est de savoir si ce manque de dynamisme et cette inefficacité n'est pas... Je crois que la qualité des agents n'est pas en cause. Je me demande si c'est pas, et je pose la question de savoir si c'est pas une question de statut de ces personnels dans ces services publics, qui est calqué en fait sur celui de la fonction publique. Et je crois que c'est un système, c'est le seul système où d'une part, quand il y a des efforts de fait, ça n'est pas reconnu parce que c'est un système où il y a un anonymat qui règne d'une façon très très développé, et d'autre part, quand il y a carence, il n'y a pas de sanction du fait qu'il n'y a pas de risque de licenciement. Alors je me demande si ce système-là est justement n'est pas fait pour aller à l'encontre de tout dynamisme propre à ce système. Merci.
Alors, c'est également un autre angle de vue pour les services publics, c'est l'angle social. Alors, les services publics, même quand ils étaient privés, comme ils étaient régulés par l'État, les syndicats s'y sont installés et y ont été particulièrement actifs. C'est en grande partie dans les services publics que s'est implanté le mouvement syndical. Alors, je parle de la France, mais on pourrait faire des comparaisons dans d'autres pays. Bon, ça a commencé notamment dans les chemins de fer, à la fin du 19e siècle, ou au PTT. C'était des grandes entreprises, donc il y avait beaucoup de salariés. Et ils se sont syndiqués et ils ont exigé les avantages sociaux. Alors comme en plus les services publics sont essentiels au fonctionnement de l'activité économique, la grève joue un rôle particulier, parce que faire grève dans un service public, ça veut dire paralyser le pays. Donc ça donnait aux syndicats ouvriers dans ces secteurs un moyen de pression très important, pour reprendre l'expression, dans le rapport de force sociale. Le service public est un bastion pour la classe ouvrière. Bon, et c'est dans ces secteurs que s'est constitué le mouvement syndical. C'est là que les avantages sociaux ont commencé. Hein, donc la conquête sociale a commencé dans les services publics. C'est dans le secteur des chemins de fer qu'on a établi le régime des retraites, les accidents du travail, de la sécurité sociale. Ça a commencé dans les services publics. Alors ensuite, le mouvement était tellement puissant que ça a conduit à la nationalisation. Les syndicats ont exigé l'expropriation des propriétaires capitalistes, notamment au lendemain de la guerre. Et avec les entreprises publiques, à ce moment-là, on a instauré effectivement le statut de la fonction publique, le statut des services publics. Les régimes de retraite spéciaux, ce sont en fait des dérivés du statut de la fonction publique. Alors ça, là aussi, hein, ça dépend de quel point de vue on se place. Si on se place du point de vue de la classe ouvrière, tout ça est très bien, hein, puisque c'est le fer de lance de la conquête sociale. Si on se place du point de vue, alors je ne sais pas de qui, mais enfin, si on se place du point de vue des capitalistes, c'est d'expropriation. Comment ? Oui, c'est ça, mais ça, c'est vous qui le dites. Hein, oui. si on se place du point de vue des exploiteurs, évidemment, ce n'est pas bien du tout. Bon, si on se place du point de vue des consommateurs, les consommateurs, ce n'est pas forcément des exploiteurs, c'est tout le monde. Hein. Bah, c'est pas forcément. Il y a du bien et du mauvais et du moins bien. Les services publics ont quand même développé les centrales nucléaires, le TGV, Airbus, tout ça c'est très bien quand même, c'est très positif. C'est bien pour les intérêts de la France. Bon, et puis quelquefois, il y a quand même un peu de corporatisme, de mauvaise gestion, ce qui est moins bien. Bon, mais quand on voit les compagnies privées gestionnaires de services publics, c'est pas très bien non plus. Enfin, il y a du plus et du moins. Donc tout ça se débat. C'est un débat. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous sommes ici.
Je voulais intervenir simplement sur un point, le cas des États-Unis et le cas de la France. Je ne sais pas si vous seriez d'accord avec mon analyse, mais je pense qu'en France, on a donc une dérégulation qui n'est pas une véritable déréglementation. D'ailleurs, la confusion entre les deux termes. Donc, quant au problème que ça pose, c'est effectivement les problèmes d'égalité d'accès aux services publics. Bon, on peut parler du service public, mais égalité d'accès, égalité de quant au, je dirais, aux tarifs, etc. Et enfin, je voulais savoir si deuxième point, l'uniformisation et pas, si vous voulez, la condition nécessaire, malheureusement nécessaire, de la sécurité, enfin du besoin de sécurité qu'on prête aux consommateurs, je dirais qu'on... Voilà, et qui est peut-être plus fort outre-Atlantique qu'ici. Je pense notamment au fromage ou par exemple aux jeux électroniques. Enfin, juste une dernière chose, la notion d'intérêt collectif. Par exemple, quand il existe un bien collectif surabondant, comme par exemple en France l'électricité, ou comme il existe la notion par exemple de transport qui n'est pas donc non polluant par rapport à un transport lui qui serait polluant. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas des choix à faire plutôt que déréglementer en rajoutant de la réglementation pour protéger telle ou telle espèce ? Par exemple, les chômeurs longue durée qui doivent avoir accès, pouvoir chercher du travail, donc carte orange. Même chose pour les étudiants. Mais ça pourrait très bien exister pour le problème de l'électricité également. Merci.
Bon, en France, nous n'avons pas de véritable dérégulation. En effet, le paradoxe, c'est qu'on appelle ça déréglementation, alors qu'il s'agit d'introduire la régulation. Parce qu'avant, nous avions des monopoles d'État et une tutelle d'État. À la limite, il n'y avait pas besoin de règlement. Vous disiez, EDF a le monopole de l'électricité, et le ministère de l'Industrie, le ministère des Finances exercent la tutelle. Donc ça tient en une ligne, ça, c'est pas très lourd. Alors en revanche, si vous cherchez à créer de la concurrence dans un secteur comme ça, ça demande des centaines de pages, voire des milliers de pages de textes, de décrets, d'arrêtés, de jurisprudence. Donc on remplace quelque chose qui était très simple, le monopole et la tutelle, par quelque chose qui est compliqué, qui est la régulation. Donc c'est pour ça que c'est très important de voir que nous sommes en fait dans un débat transnational et qui transgresse les cultures juridiques et les approches institutionnelles et culturelles et sociales. Donc il faut en permanence faire l'aller-retour entre ce qui se passe dans la sphère libérale aux États-Unis et puis ce qui se passe en France. Bon, alors... En France, nous passons du régime du monopole d'État, de la concession qui existait auparavant, la concession de services publics, et du monopole d'État et de la tutelle administrative, au régime de la concurrence régulée. Bon, c'est ça que nous sommes en train de faire. Alors, l'uniformisation, c'est vrai que les services publics, c'est le service de masse. Les lieux où on a élaboré les services publics, c'est là où il y avait besoin d'un service de masse indifférencié et uniforme. C'est un élément de sécurité. Bon, le citoyen français, il sait qu'il y a un service public de l'éducation nationale qui donne un service égalitaire, accessible à tous, qui donne la même chose. L'école primaire, le baccalauréat, l'université, il n'y a pas de numerus clausus, il y a liberté d'accès, etc. Même chose pour la santé publique. Il y a un minimum. Bon, et ça, c'est un élément de sécurité économique. Alors, toute cette aspiration qui était très forte il y a 50 ans, l'est moins aujourd'hui, parce que nous sommes dans une économie d'abondance, il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup de concurrence, et puis il y a une aspiration aux surmesures et à la différenciation des produits. Le service public, c'est vrai, avec son régime, n'est pas très bien placé pour différencier les produits, notamment parce qu'il a une règle qui est l'égalité de traitement. Quand une université veut établir une sélection, ça se passe en général très mal, parce qu'elle n'a pas le droit. Ça heurte un principe fondamental qui est l'égalité d'accès, l'égalité de traitement. Donc il y a un vrai problème de savoir comment les services publics qui ont été conçus pour produire des services de masse à bon marché, indifférenciés, uniformes et créant une sécurité économique, peuvent s'adapter à un marché qui demande plus de différenciation et de surmesure. Bon, mais enfin, ça se fait, mais c'est un problème délicat. Alors, surabondance, là aussi nous avons changé de régime. Si on a créé des services publics après la guerre, c'est pour faire la reconstruction parce qu'il y avait de la pénurie. Et en particulier parce que les Français, qu'il s'agisse des foyers domestiques ou des entreprises, n'avaient pas accès ou avaient accès de manière rationnée. Il y avait un régime de pénurie dans des services essentiels. Donc un des objectifs des services publics, ça a été de reconstruire les infrastructures. Quand on dit reconstruire, ça veut souvent dire les construire. Bon, c'était la construction des installations de production électrique et des réseaux de distribution pour EDF, notamment l'accès des campagnes à l'électricité. C'était l'électrification du rail pour le chemin de fer. C'était la couverture du pays en télédiffusion, en télécommunication, téléphone, etc. Alors là aussi, c'est en partie derrière nous, parce que ces secteurs sont maintenant, comme vous le dites, pas surabondants, mais enfin, l'offre est à peu près au niveau de la demande. En tout cas, il n'a plus aucune difficulté à suivre la demande. Il n'y a plus besoin, forcément, de régime de protection ou de régimes particuliers pour les faire se développer. Et c'est d'ailleurs une des causes de la déréglementation, c'est qu'il y a moins de nécessité de protéger les investissements lourds dans ces secteurs. Pour développer des investissements de haute intensité capitalistique et à long terme, et d'innovation technologique, vous avez besoin en général de régimes de protection. On n'aurait pas fait de centrale nucléaire si l'industrie électrique était restée privée. Même aux États-Unis, l'administration Roosevelt a été obligée de créer des agences fédérales, c'est-à-dire des entreprises publiques, pour développer les ressources hydroélectriques de l'Ouest, parce que les entreprises privées ne le faisaient pas. Bon, parce qu'il fallait investir avec des taux de rentabilité à 20 ou 30 ans. Bon, aujourd'hui, c'est moins nécessaire, parce qu'il y a surabondance, et même dans des secteurs où il y a une très forte demande et pas assez d'offres, bon, je pense en particulier à Internet ou au téléphone mobile, on voit bien que les investissements privés sont suffisants. Ils sont suffisants. Il n'y a donc plus cet argument, cette légitimation des services publics et des régimes de monopole qui était la satisfaction de la demande sociale. Alors, il reste d'autres éléments. Alors, vous avez mentionné les problèmes de sécurité industrielle. C'est vrai que quand on regarde l'actualité, les citoyens sont très sensibles aux problèmes de risques alimentaires, de risques écologiques, de risques majeurs en matière industrielle, les catastrophes, etc. On voit bien, il n'y a qu'à regarder les journaux et la télévision, ce qui fait les gros titres tous les jours, c'est ça. Donc ça montre bien que ça correspond à une profonde demande sociale, c'est la sécurité au sens, alors non plus tellement au sens économique, mais au sens technique du terme, le contrôle alimentaire, le contrôle écologique, etc. Alors là, il y a peut-être une relégitimation du service public, parce que le service public rassure. Quand les réseaux électriques se sont effondrés avec la tempête de fin 99, bah, EDF est venu très vite pour réparer. Et les Français ont été très contents, parce qu'ils ont un élément de sécurisation. Ils ont en face d'eux une entreprise qui est là pour répondre, et non pas une entreprise privée qui, ne pouvant faire face aux problèmes, va être obligée de s'éloigner. C'est très symbolique. Le passage à l'an 2000, ça a été marqué par la spéculation boursière sur la nouvelle économie, la fusion AOL, Time Warner, le procès contre Microsoft, et puis la tempête. Alors la tempête, vous avez un groupe privé que je ne citerai pas, qui a un peu démissionné de ses responsabilités devant les conséquences de la tempête, la marée noire, et puis un autre qui est public, qui a répondu présent. Bon, écoutez, je vois où se situe la majorité de l'Assemblée. Bon, voilà peut-être des relégitimations, parce que, comme toujours, hein, c'est date symbolique. On est passé du 20e au 21e siècle, enfin pas tout à fait, puisqu'en fait c'est au 31 décembre 2000 qu'on va y passer. Bon. Il y a eu plusieurs événements symboliques. Vous voyez, en 1900, il y a eu la comète. Ben, nous, on a eu AOL, Microsoft et la tempête. Alors tout ça, c'est à la fois le démantèlement et l'obsolescence d'une certaine vision du service public et de la réglementation, et au contraire la naissance de nouvelles formes.
On va prendre deux dernières rapides questions, s'il vous plaît, monsieur et madame en haut après.
Ma question est très courte, mais ça permettra peut-être de fixer les esprits, puisque dans le domaine que vous connaissez bien, l'électricité, la dérégulation a démarré aux États-Unis il y a 10 ans. Nous la démarrons en Europe, en France, grâce à l'Europe, j'allais dire, cette année. Quel est le prix du kilowattheure pour un ménage aux États-Unis et quel est le prix du même kilowattheure en France, le prix moyen, bien sûr, pour fixer les idées un petit peu de l'effet de la dérégulation par rapport à une situation de monopole?
Alors, aux États-Unis, en fait, ce n'est pas un très bon exemple de dérégulation de l'électricité, parce que ça fait 25 ans qu'elle a commencé, la dérégulation. Elle a commencé par la production indépendante, ensuite par l'accès au réseau, aujourd'hui par les désinvestissements forcés. Il y a des débuts de reconcentration, mais c'est quelque chose qui est assez flou. L'Angleterre, ça c'est clair, net, il y avait un monopole d'État qui était démantelé. Là, il y a eu une superbe, sur le plan de l'analyse économique, une réforme considérable. Aux États-Unis, c'est quelque chose qui est assez progressif et qui ne se voit pas clairement. Alors, pour répondre à votre question, le prix de l'électricité aux États-Unis est très variable d'un État à l'autre. Dans les États de l'Ouest, où il y a des ressources hydroélectriques et du charbon à bon marché, les centrales sont près des mines de charbon, l'électricité coûte trois fois moins cher qu'en France. et puis sur la côte est des États-Unis, où il y a des problèmes de centrales assez anciennes, de réglementation de pollution, de sureffectifs, parce qu'il y a aussi de la mauvaise gestion dans ces secteurs, le prix de l'électricité est peut-être deux fois plus cher qu'en France. Alors, je parle du prix de gros, là. Hein. Alors, au niveau du consommateur, c'est un peu atténué, parce qu'il y a l'effet de distribution. Mais le prix de gros est très variable. Il varie presque de 1 à 10 aux États-Unis, selon les régions et selon les modes de production. Là où vous avez des centrales hydroélectriques amorties, l'électricité ne coûte rien, quasiment rien. Alors, en Europe, c'est très intéressant de voir l'Europe, parce que les régimes sont très, très, très différents. Alors, là aussi, j'avais préparé, je vais toujours vous le montrer, une cartographie qui montre les contrastes considérables qui existent en Europe en matière de régulation. Hein, vous avez 15 pays dans l'Union européenne, vous avez une vingtaine de pays dans l'Europe élargie. Eh bien, si vous regardez la régulation, c'est très différent. Vous avez le modèle français, le monopole d'État, vous avez le modèle libéral anglais, scandinave, vous avez le modèle fédéraliste décentralisé, industriel, qu'on rencontre en Allemagne ou en Suisse ou en Belgique. Enfin, puis vous avez le modèle de l'Europe de l'Est, le modèle des ministères, le modèle de l'économie centralement planifiée. Donc ce sont des contrastes considérables. Sur une toute petite surface du continent européen, vous avez des modèles très différents. Il n'y a pas un pays qui a la même régulation que l'autre. Et puis les choix énergétiques sont très contrastés aussi. La France fait son électricité essentiellement à partir de nucléaire, les pays scandinaves à partir d'hydroélectricité, l'Angleterre, l'Allemagne à partir de charbon, les Pays-Bas à partir de gaz, l'Italie à partir de fuel, et puis vous avez même des productions exotiques. L'ancienne RDA faisait son électricité avec du lignite, l'Islande avec de la géothermie et l'Irlande avec de la tourbe. Donc on ne peut pas rêver de systèmes plus contrastés. Alors tout ça, c'est lié au fait, bien sûr, que la régulation de l'électricité, c'est quelque chose de très politique, et de très lié aux institutions et à la société du pays en question. Et il y a des contrastes de prix très importants. Alors, l'électricité en France est bon marché. Bon, alors, elle est meilleur marché dans les pays qui ont des ressources hydroélectriques, par exemple la Norvège, qui produit 100% de son électricité à partir d'hydraulique à des prix imbattables, des prix qui sortent de l'électricité de gros, c'est de l'ordre de je sais pas, 10 à 15 centimes le kilowattheure, mettons 10 centimes. En France, ben nous sommes parmi les pays qui n'ont pas de dotation hydroélectrique majeure. Enfin, nous faisons 15% de notre électricité à partir d'hydraulique, puisque nous avons des montagnes, mais nous sommes privés de ressources combustibles, charbon et de pétrole. Eh bien, nous avons d'excellentes performances de prix. On fait l'électricité à 22 ou 23 centimes le kilowattheure. C'est plutôt 30 centimes en Italie, en Espagne, en Allemagne, avec le charbon national qui est très coûteux, ça coûte plus cher aussi. Donc nous avons d'excellentes performances. Autrement dit, le régime français, même s'il n'est pas très populaire aujourd'hui dans le monde de la déréglementation, hein, à l'étranger, nous avons une image souvent un peu négative, mais il suffit de dire aux gens, bah, écoutez, regardez les résultats. Les résultats sont là. Nous avons de meilleurs résultats. Nous avons d'excellents résultats. Et puis EDF est la plus grande entreprise électrique du monde. Elle commence à se développer beaucoup à l'étranger. Et quelque part, un jour, les Anglais vont peut-être regretter d'avoir démantelé leur secteur électrique, parce que comme il est démantelé, bah, il est à la merci, bien sûr, des acquisitions étrangères. Alors voilà, donc le tableau européen, les contrastes. Et puis, si l'on veut regarder l'évolution de la réglementation, là aussi, on voit des évolutions différentes. Hein, donc, le mouvement de déréglementation avance à des rythmes très différents selon les pays. Alors, de manière générale, il y a une polarisation vers le modèle libéral. C'est ça le sens de la déréglementation. Donc, les pays évoluent vers le modèle libéral, mais à des rythmes différents. Et puis, peut-être que dans quelques années, le cycle aura changé et puis il y aura une reconvergence vers le modèle à la française.
Vous avez dit que pour l'Europe, les postes étaient un service de monopole. Il me semble que dans les années 90, vous n'en avez pas parlé, a été apparu notamment en France des compagnies privées pour les postes qui semblent avoir disparu. Et d'autre part, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui se passe au Japon en matière de monopole et en Russie, s'il vous plaît. Merci.
Alors la Poste est sans doute le cœur du service public, parce qu'il y a un effet de péréquation très, très important. Bon, si vous libéralisez la Poste, vous avez l'écrémage du marché sur les segments les plus rentables, et en revanche, les segments les moins rentables ne sont plus exploités. Alors, pour prendre un exemple très concret, distribuer une lettre dans Paris, ça vous coûte un franc. et aller porter une lettre au fin fond du Massif central, ça vous coûte 10 francs. Alors si ça coûte 10 francs d'envoyer des lettres ou des journaux dans le Massif central, plus personne n'enverra de lettres et donc il y aura des régions entières qui seront privées du service postal. Ce qui veut dire que la dérégulation de la poste n'est pas du tout évidente. Alors la preuve d'ailleurs, c'est qu'en Angleterre, c'est la dernière privatisation, la dernière augmentation qui a échoué, puisque en 1994, l'administration conservatrice, le gouvernement de John Major, a voulu privatiser le Post Office et n'y est pas arrivé, précisément à cause de ses effets. Donc, c'est probablement ce qu'il y a de plus service public dans l'ensemble, dans le panorama dont j'ai parlé, c'est-à-dire les transports, l'énergie, les communications. La Poste est probablement le cœur du système. Alors, il n'empêche qu'elle s'ouvre à la concurrence sur certains segments. C'est aussi le plus ancien service public. La Poste a été créée en France par Louis XI, c'est la Poste aux chevaux, et dans le Saint-Empire, dans l'ensemble de l'Europe, par l'empereur d'Allemagne, il a créé le monopole postal, et il l'a d'ailleurs donné en concession à une famille qui s'appelle les Tournetaxis, qui était une famille de l'Empire, qui régnait sur le Tyrol, le passage des cols entre l'Italie du Nord et l'Allemagne du Sud, et le monopole Tournetaxis a géré les postes impériales sur le territoire de l'Allemagne, de l'Italie, de la Belgique, des Pays-Bas, de la Scandinavie, jusqu'à la fin du XIXe siècle. Donc c'est le plus ancien des services publics, et sur le plan de la caractérisation économique et sociale, c'est probablement celui où il y a le plus d'éléments de péréquation tarifaire et d'égalité de traitement. Alors il n'empêche qu'on libéralise certains segments du marché. Bon, vous savez que les colis postaux sont libéralisés. Vous avez des porteurs, des carrières américains qui sont arrivés, le DHL, United Parcel Service, etc. Vous avez aussi des fusions et des débuts de restructuration transnationale. Donc c'est quelque chose qui est à suivre de très près. Alors, personnellement, j'ai un peu réfléchi sur ce sujet, bien que n'en faisant pas partie, mais je me demande si ça ne va pas être le premier service public européen qu'on va voir surgir. C'est-à-dire qu'il y a une tendance à la concentration des postes qui va engendrer des effets secondaires négatifs. Et il est possible qu'un jour, dans quelques années, le gouvernement, enfin la Commission européenne, le Conseil des ministres, et puis peut-être le pouvoir fédéral européen dont on commence à parler, décide de créer une poste européenne. Je rappelle d'ailleurs, c'est le processus qui s'est produit aux États-Unis. Aux États-Unis, dans les premières décennies des États-Unis, il y avait un régime libéral dans la poste. Il y avait des coursiers privés. Buffalo Bill, qui est très célèbre dans les annales des westerns, était un postier. Il portait le courrier à travers les montagnes du Far West pour la Pony Express ou la Wells Fargo. Ce système n'a pas fonctionné. Il y a eu des inconvénients, des non-dessertes, des abus de position dominante. Et le Congrès américain, au milieu du 19e siècle, a voté pour créer le service postal des États-Unis, puisque la poste aux États-Unis est nationalisée. C'est le US Postal Services, USPS. Alors, il y a des parties qui sont libéralisées, les colis, etc., c'est libéralisé, mais il y a un cœur du métier, notamment tout ce qui est lettres, qui est un service public et une entreprise publique fédérale, qui exerce son activité à l'échelon du territoire fédéral américain. Il est possible que, on fait la prospective, que dans quelques années, les Européens se posent la question, non pas de déréglementer la poste et de tout livrer au privé, mais au contraire de créer une entreprise publique européenne pour gérer la poste dans le secteur, sur le territoire du marché commun. Enfin, c'est une spéculation intellectuelle, mais c'est un sujet intéressant de réflexion. Ne serait-ce que l'euro va évidemment poser des problèmes de comparaison. Aujourd'hui, les prix du timbre sont très différents d'un pays à l'autre. Bon, le jour où il va falloir les aligner en euros, il va bien falloir les comparer. Et on va se demander pourquoi on paye 1,20 euros en Allemagne, 0,60 je crois en Allemagne et 0,45 en France. On va se demander pourquoi ce n'est pas 1 euro pour tout le monde, ou 1,5 euro pour tout le monde pour le timbre poste. Pourquoi est-ce que ce n'est pas 1,5 euro? À partir du moment où on va pouvoir faire des comparaisons monétaires, il va y avoir une pression de l'opinion publique pour réclamer la péréquation tarifaire, c'est-à-dire un prix du timbre poste équivalent dans tous les pays européens qui pourrait être d'1,5 euro. 1,5 euro, c'est 3,25 francs ou 3,30 francs. Et à ce moment-là, s'il y a un prix unique, on n'est pas très loin de la fusion des postes publics nationales. On n'en est pas très loin. Voilà, je terminerai sur cette réflexion prospective. Merci de votre attention.